6h03, vendredi, déjà quand même, nous sommes le 4 octobre. Bonne journée et bienvenue au 98.5 FM. Alors, c'est un matin d'automne, un vrai, avec un peu de bruine par endroit. C'est peut-être déjà terminé dans votre coin. Alternance de soleil et de nuages par la suite, avec des vents légers. Le maximum prévu pour aujourd'hui, 11 degrés. Ce soir et cette nuit, un dégagement avec un minimum de 2, plus 2 durant la nuit. Ce qui veut dire que par endroit, on pourra avoir du gel. Samedi, on a du temps généralement ensoleillé avec un maximum de 13 degrés. Et pour dimanche, on prévoit du temps nuageux, des averses, maximum autour de 17. Et ça va continuer dimanche soir, dimanche dans la nuit jusqu'à lundi. Et probablement pour le début de la semaine prochaine, on aura de la pluie et des températures autour de 14 degrés. Je sais que ce n'est pas propre nécessairement là, aux automobilistes québécois, mais ça fait quelques reportages qu'on vous présente sur le comportement débile de plusieurs automobilistes. On le voyait avec des véhicules d'urgence. Les paramédics qui sont confrontés à des gens qui, par exemple, refusent de se tasser, c'est une chose. D'autres qui veulent courser avec une ambulance. D'autres qui font des doigts d'honneur à des paramédics. Il ne faut pas être fou à peu près, là. Et là, aux abords des chantiers de construction, des gens qui veulent entrer dans les chantiers. Il y a peut-être des gens aussi qui sont en état d'ébriété. Il n'y a pas une énorme présence policière autour de chantiers. Mais je ne sais pas c'est quoi l'idée de vouloir forcer, par exemple, un véhicule qui est là sur la route pour ralentir le trafic, pour protéger des travailleurs. C'est une job de fou. Je l'ai déjà dit souvent, quand j'habitais sur la Rive-Sud puis que je venais travailler à Montréal, donc la nuit, pratiquement, là, 3-4 heures, 4 heures du matin, puis je voyais des gens ramasser les cônes. Je me dis, il y en a un qui va se faire tuer. T'sais, c'est comme, ça n'a pas de bon sens. C'est déjà à risque, mais en plus, tu es entouré de gens qui n'ont aucune espèce de présence d'esprit au sujet des autres. Ils ont l'air de s'en foutre. Et je pense qu'on vient de le voir encore assez clairement avec les cas rapportés par Marie-Laurence. Bon, dans les nouvelles ce matin, d'abord, on va parler de cette demande de recours collectif. C'est pas banal. C'est contre le jeu Fortnite. Et j'invite les gens qui ont joué à ce jeu ou qui ont eu un ado qui a joué beaucoup à un point tel que ça a créé de la dépendance à me raconter par courriel cette expérience-là. J'ai vu qu'il y a des courriels tantôt qui sont entrés. Bon, essentiellement, c'est quoi l'histoire? C'est probablement un des jeux les plus populaires actuellement chez des ados, mais aussi chez des adultes. Et il y a, hier, je regardais la requête présentée par ce bureau d'avocats de Montréal qui s'appelle le Calex Légal et qui veut intenter donc ce recours collectif contre une entreprise américaine qui s'appelle Epic Games qui a créé le jeu. Et il y a eu plusieurs alertes de santé publique dans le monde, des groupes qui ont, et même des organismes officiels, qui ont dit, écoutez, il y a un problème avec les jeux vidéo en général, et des jeux en particulier, qui créent de la dépendance. Mais ce qui est frappant dans ça, c'est d'apprendre, puis là, il va falloir en faire la démonstration, que les créateurs de Fortnite ont élaboré le jeu avec comme une, je dirais comme priorité, là, d'amener cette dépendance. Un peu comme l'industrie du tabac l'a fait avec la cigarette. Comme me disait quelqu'un, Fortnite, c'est comme de la coke. Tu peux devenir accro, et ça veut dire que tu peux dépenser beaucoup d'argent. La cause qui est sur la table implique deux mineurs, un de 10 ans et l'autre de 15 ans. Vous retrouvez aussi les détails dans la presse de ce matin. Mais on sait donc que les deux jeunes ont dépensé beaucoup d'argent parce que, comme n'importe quel jeu vidéo, ça commence gratuitement. Mais le jeu est aussi fait pour déterminer quel est ton profil exact. Donc, il y avait une volonté, parce que non seulement il y a des spécialistes en logiciel, informaticiens, mais il y a des psys qui ont participé à ça pour rendre le jeu encore plus, populaire et surtout développer cette dépendance. Donc, on va en reparler un petit peu plus tard ce matin. Parlons du stade de baseball. Hier, les audiences, en fait, consultations publiques. On comprend l'idée, c'est-à-dire qu'on a un terrain qu'on appelle le fameux bassin Peel. Vous avez la rue Mill, vous avez la rue Wellington, et c'est en bas de la côte, comme on dit, au centre-ville de Montréal. Et on veut construire quoi? Un stade de baseball pour accueillir un club professionnel. Et aussi, et c'est important, on en parle un peu moins, mais le développement autour. Développement commercial, résidentiel, avec quelques logements sociaux, parce que c'est de plus en plus la norme. Mais c'est ça le développement. Donc, tout près du centre-ville, la route Bonaventure, c'est tout ce coin-là. Et M. Bronfman est venu hier témoigner en disant, bien, c'est le temps, là. Et on comprend que, d'un côté, on l'a vu cette semaine, ça se peut qu'on ait une garde partagée avec Tampa Bay, et ultimement, le déménagement d'une franchise vers Montréal. Le stade olympique, c'est non, parce que les autorités du baseball majeur n'en veulent pas, et ça, on le sait depuis le début. Au moins, contrairement à Gary Bettman, ils ont le respect des citoyens et des payeurs de taxes. Ne vous lancez pas dans la construction d'un stade tant que vous n'aurez pas la franchise. T'sais, Bettman, il disait aux gens de Québec, « Bon, c'est l'amphithéâtre, si vous voulez. Peut-être que vous aurez un club, puis peut-être que vous ne l'aurez pas non plus. » Alors, mais je pense qu'il faut aussi tenir compte que ce n'est pas juste l'intérêt du sport et du baseball. C'est le développement pour Devemco et également pour M. Bronfman de tout ce secteur-là. Il y a de l'argent à faire, là. Et partout en Amérique du Nord, quand on construit maintenant un nouveau stade, ça s'inscrit dans un projet beaucoup plus large. On s'en va pas juste planter un stade quelque part, là. Et là, la question va revenir. On sait que d'un côté, il y a des travaux importants à faire au stade olympique, puis de l'autre, on comprend qu'il y aura de l'argent public ou des demandes d'argent public pour le stade, qui sera un stade, Alain le disait tantôt, qu'on nous présente comme vert. Là. On sait que c'est assez tendance. Alors là, on dit un stade à ciel ouvert, il n'y a pas de toit. On va limiter les espaces de stationnement. Le REM va aboutir là. Je pense qu'on a fait un calcul, c'est pas très loin, c'est autour à pied 2 km là, pour partir de la rue Peel, mettons, au Sainte-Catherine, là. Puis tu descends jusqu'en bas. Une vingtaine de minutes pour se rendre là. Bref, on ne veut pas d'auto, puis on veut que ça soit une expérience unique, puis il va y avoir des cafés, puis il va y avoir des restos, puis il va y avoir des bars, puis il va y avoir des logements, puis bon. Mais quelle sera la demande? Et moi, ce qui m'énerve toujours, c'est qu'on joue sur les mots. T'sais, ils veulent combien de cash pour faire des trottoirs, pour faire des aménagements? Est-ce que les propriétaires vont payer 100 % de la facture du stade? Je pense pas, moi. Alors, ce serait bien qu'on ait un portrait clair de la situation. Et c'est arrivé le jour, ces audiences-là, du décès de Roger Taillibert, 93 ans, qui est le créateur du Parc olympique, du stade, et qui est un personnage fascinant. Je l'ai interviewé à quelques reprises. C'est un amoureux du Québec, il faut dire qu'il venait passer ses étés ici. Et c'est sûr qu'on a dévié du plan Taillibert. Puis là, je ne ferai pas toute l'histoire ce matin, mais le chantier olympique a été un foutu bordel. Pas à cause de Taillibert. Il y a eu des grèves, il y a eu de la magouille. Il y en a qui en ont profité. Tu sais, la fameuse image des camions qui entraient pleins au stade puis qui ressortaient pleins. Des retards dans les travaux. La ville de Montréal qui était débordée. On est venu à la rescousse. On a tenu des Jeux olympiques. C'était pas fini. Et c'est sûr que Taillibert a toujours haï profondément les décisions prises par les gens qui ont dû compléter, parachever le stade olympique. Et je me souviens d'une de ces images. Je l'avais interviewé après le changement de vocation du Vélodrome olympique, qui est devenu, vous le savez, le Biodôme, qui est en travaux actuellement d'ailleurs. Et il m'avait dit, « Ils ont transformé mon Vélodrome en parc à pingouins. » Et ça, là, ça l'insultait. Je sais que plusieurs disent que c'était, c'est vrai, là, c'était quand même assez spectaculaire comme design. Est-ce que c'était trop complexe à faire? Mais c'est un stade qui veut pas, là, puis qui a coûté la totale, on le sait tous, là. Marque Montréal. Ça sort du lot. Et Montréal est identifié au stade olympique. Fait que là, on veut construire un nouveau stade au centre-ville. Il faut en même temps retaper le stade olympique. Tout ça arrive alors que Roger Taillibert, donc, s'éteint. un homme passionné. Quand il parle du stade, quand il parle de Montréal, enfin, quand il parlait, tu voyais un peu les étoiles dans ses yeux. 6h14, comment ça va ce vendredi matin, monsieur? Bon, qu'est-ce qu'on a appris dans la campagne électorale hier? Rien de très percutant. D'abord, Andrew Scheer, on lui demande en plein débat votre position personnelle, pas celle du parti, sur l'avortement. Comment te mettre les deux pieds dedans, tourner en rond pour t'enfoncer davantage? Il a fait ça, lui, l'autre jour. En disant, ben, le parti va faire si le parti... Non, non. Et Trudeau, c'était un bon coup de Trudeau. Tu sais, de dire, toi, Andrew, personnellement, c'est quoi ta position? Mais il a fini par le dire hier. On le savait que c'était ça. Il dit, je suis pro-vie. On le sait. Il y a plein de déclarations. Alors, pourquoi tu n'as pas répondu? Pourquoi, là, un leader, un chef, perd pas de temps sur ces questions-là? On apprend également, c'était dans Globe and Mail hier en après-midi, que M. Scheer a la double nationalité, canadienne et américaine. Son père est un Américain. C'est pas la première fois. Stéphane Dion avait également la nationalité française. Et ça arrive. Et là, pour se sortir de ça, ben, il dit « Personne ne me l'a demandé ». Et il prétend avoir amorcé des démarches pour renoncer à la citoyenneté au mois d'août dernier. Il est chef depuis un bout de temps. Il sait que les élections s'en viennent. S'il était vraiment sérieux, il aurait dû le faire. Puis il disait « Je renonce ». Bon. En même temps, c'est pas la fin du monde. Au Bloc québécois, on s'est retrouvé hier avec quelques controverses. D'abord, il y a quelqu'un qui a ressorti un message sur Twitter de Yves-François Blanchet, avant qu'il soit au Bloc, où, dans le fond, il dit que toute la question des signes religieux, puis il donne raison à Philippe Couillard, et que tout ça va alimenter l'extrême droite, comme on voit ailleurs. Maintenant, il dit le contraire. C'est une époque où il était commentateur, donc libre penseur. Fait que c'était peut-être ça son opinion à ce moment-là, puis il va nous dire aujourd'hui qu'il a peut-être changé d'idée. Puis l'autre affaire, là, c'est parce qu'au débat, puis dans des messages, le Bloc dit quoi? Le Bloc dit « Votez pour nous. Votez pour des gens qui vous ressemblent. » Puis là, ils ont dit « Oh, ça, c'est raciste. » Ça veut dire quoi, ça, se ressembler? C'est pas juste physique, là. T'sais, c'est sûr, tu veux partir le trouble, tu dis « Ah, moi, je suis noir, donc je te ressemble pas. » Non, des gens qui vivent dans une communauté, des gens qui partagent un certain nombre de choses, qui adhèrent à un certain nombre de valeurs. On se ressemble, on se comprend. Parce qu'on vit sur le même territoire. On peut avoir des idées différentes. Puis là, j'ai vu ça partir là, sur les médias sociaux. Mais, évidemment, les grands débats concernant le vol d'identité, la protection des infos personnelles, et on en parlait au début de la semaine, un certain désintéressement au Canada de ces prédateurs sexuels sur le web. Les policiers font beaucoup avec peu. Et c'est vrai ici, c'est vrai aux États-Unis, parce que l'argent doit aller ailleurs. L'argent doit aller au crime organisé, l'argent doit aller au terrorisme. Et c'est pas nécessairement une priorité, alors qu'il y a prolifération de matériel, d'enfants, non seulement abusés sexuellement, mais je vous dirais martyrisés sur le web. Puis ça vient contenter quelques grossiers personnages puis qui sont des abuseurs d'enfants. Québec et Ottawa n'iront pas en appel de la décision de la Cour supérieure concernant le droit de mourir dans la dignité, ce qui est une excellente nouvelle. Alors, ça veut dire qu'il faut que les gouvernements, maintenant, adaptent les lois, et ils ont 6 mois pour le faire. Tout ça pour rendre l'aide médicale à mourir davantage accessible. On va y revenir ce matin avec le docteur Georges L'Espérance, qui est de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Le seul bémol, je dirais, c'est que la décision de ne pas aller en appel est celle de M. Trudeau. Je sais qu'il y a des délais, mais est-ce que les conservateurs pourraient, par la suite, tenter de modifier la loi? Question ici, point d'interrogation. Disons que c'est pas très clair, mais au moins, il y aura une volonté d'harmoniser les lois. Je prends quelques instants pour vous parler de cette directrice d'école, directrice donc d'une maternelle, pour être plus précis, là, en France, qui s'appelle Christine Renon, qui dans le secteur de Paris et qui œuvre dans un milieu défavorisé. Et elle s'est enlevé la vie. Et avant de s'enlever la vie, elle avait envoyé des lettres à ses collègues, à ses supérieurs, dans lesquelles elle dénonçait ses conditions de travail. Puis il y a un mouvement de grève qui a été déclenché jeudi. Beaucoup de profs sont embarqués, puis pas seulement que des profs, en disant que les conditions de travail n'avaient pas de bon sens. Et je la cite dans une de ses lettres, « On te donne 185 euros et on te dit, voilà, tu es responsable de tout. » Et tous ces petits touts qui s'accumulent, donc, dans une journée. Et je pensais aux profs, puis aux directions d'école, puis à tous les intervenants dans les écoles qui œuvrent dans des milieux défavorisés, clientèle difficile, clientèle qu'on ne peut pas nécessairement toujours bien accompagner parce qu'on n'a pas les dernières ressources, sans parler de l'espace physique qui fait dur. Puis ces gens-là, là, on ne les entend pas, on ne les voit pas trop, mais je m'imagine assez bien ce qu'ils doivent vivre aussi par moment, tu sais, parce que ça prend quasiment une vocation pour faire ça. Alors, ça se passe dans ce qu'on appelle la Seine, Saint-Denis, près de Paris. Le président Trump a un mot pour vous dire, bien sûr, qu'il est encore les deux pieds dans le dossier de l'Ukraine. Il veut que les Chinois enquêtent sur Joe Biden. Il parle maintenant de nouvelles corrompues. Il est de plus en plus craqué sur le sujet. Et là, c'est la contre-offensive qui est menée aussi par Giuliani. Et puis, il y a 25 ans, ça passe vite, c'était la tragédie de l'Ordre du Temple solaire. Je me souviens de ça comme c'était hier, avec les premiers corps qui avaient été retrouvés à Moron Heights. Donc, des gens qui avaient été calcinés dans un incendie. Après ça, on a retrouvé tous ces corps en Suisse, pratiquement une cinquantaine de personnes. Et il y a eu une autre vague qui a suivi. Et c'est là que tu as découvert qu'il y avait cette organisation avec Luc Jouret, Joe DiMambro. Des gens qui étaient soit maires, d'autres qui travaillaient à Hydro-Québec. Donc, et une des caractéristiques, à part les leaders qui savaient qu'ils étaient en train de manipuler, là, avec des effets spéciaux puis des épées qui clignotent parce qu'il y a un bouton on-off sur, tu sais, puis on essaie de faire croire que. Mais l'idée, c'était de valoriser les gens en disant « Toi, t'es important, t'es un élu. » Et tout ça dans l'attente du transit. Et ces gens-là qui, en Suisse, s'étaient retrouvés dans cette ferme, cette grange, et qui avaient été drogués. Et après ça, on avait mis le feu. J'avais rencontré, à l'époque, Thierry Huguenin, qui aurait dû mourir en Suisse, et qui a réussi à se sauver quand il a vu, par exemple, Luc Jouret et Joe DiMambro avec des bidons d'essence se préparant à mettre le feu. Lui s'était rendu, donc, au domaine, et il a réussi à prendre la fuite avant, évidemment, d'être, je dirais, assassiné et brûlé comme les autres. Ça fait le tour de notre revue de presse. Il est 6h22, 25 secteurs de Terrebonne.